Vous écoutez France Musique.
Merci Rodolphe Bruno Boulmier.
Et à dimanche prochain.
Leur belle saison. Nicolas Lafitte et Jean-Baptiste Urbain.
C'est le patron, c'est le maestro. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, d'une certaine manière, il le revendique.
Il fait le show. Et c'est ce qu'il nous dit de faire toujours avant tous les concerts. Et c'est important.
Il a un toc, c'est que... Il dit toujours que c'est cool.
C'est tout.
Bonjour et bienvenue, bonjour Nicolas.
Bonjour Jean-Baptiste.
Comme chaque dimanche cet été, nous avons rendez-vous avec un jeune artiste dont le talent nous a explosé au visage cette année. C'est donc sa belle saison que nous allons vous raconter en sa compagnie, mais aussi celle d'amis, de proches que nous avons rencontrés avec quelques surprises également. Et à nos côtés donc ce dimanche, un jeune chef bouillonnant d'ailleurs, il dirige Sans Baguette.
Sans Baguette mais pas sans fougue. Regardez dans la fosse et vous y verrez un lion. Un lion à la gueule d'ange qui fait chavirer le public et la critique et qui a même pas 30 ans, a déjà un emploi du temps rempli jusqu'en 2078. Un ensemble, le balcon qui cartonne, et il a même réussi à se mettre dans la poche un certain Pierre Boulez. Comme si ça ne lui suffisait pas, il y a quelques semaines, La Bête a remporté le prix des jeunes chefs d'orchestre de Salzbourg. Il dit vouloir faire danser les artistes avec le public, alors jusqu'à 19h, suivons le chef, Maxime Pascal.
La fin de la première symphonie de chambre d'Arnold Schoenberg, l'ensemble Le Balcon dirigé par Maxime Pascal. C'était enregistré par France Musique au Festival de Deauville en 2012. Bonjour Maxime Pascal.
Bonjour.
Alors on l'a dit, vous avez remporté le concours de direction de Salzbourg, Nestlé and Salzburg Festival Young Conductor, c'est le titre exact. Cette année également au Théâtre de l'Athénée Louis Jouvet, où vous êtes en résidence avec votre ensemble, où vous avez connu un triomphe avec un opéra de Peter Edvösch, on dit comme ça ?
C'est ça, Edvösch.
Edvösch.
Avec un
che. Le Balcon, justement, c'est le titre. On va expliquer le pourquoi du comment avec ce nom d'orchestre et d'opéra. Mais d'abord, quand vous regardez en arrière ces derniers mois, qu'est-ce que vous voyez ?
Bah, cette année, on a fait beaucoup de choses avec le balcon déjà, donc ça a été très vitaminé là toute cette saison. Et puis en plus, donc comme vous disiez, j'ai eu une activité de mon côté en tant que chef assez intense, puisque avec ce concours-là qui m'a en plus amené à diriger des orchestres récemment, comme l'orchestre de la SVR en Allemagne ou le Kammerorchester de Munich aussi. Donc voilà, il y a plein de choses qui se passent en ce moment. Ça va très vite, hein, donc j'ai pas encore fait vraiment le point sur tout ça.
C'est quoi la vie quotidienne d'un jeune chef de 27 ans ? Il y a un régime à suivre, pas d'excès, un entraînement d'athlète ?
Dans mon cas, ce qui est particulier, c'est que donc, je travaille beaucoup mes partitions. Je suis tout le temps en contact avec la musique, je suis tout le temps en train de faire ça. Mais je travaille aussi donc, pour mon groupe, Le Balcon. Donc il y a tout un travail de direction au sens de management, de gestion de l'activité, tout ça. Donc il faut coordonner les deux. Je travaille sur les deux fronts en fait en même temps. Et ce qui est le plus délicat, c'est quand on a un agenda aussi intense comme ça, c'est de trouver le temps pour se nourrir de nouvelles choses et de continuer de pouvoir découvrir des nouvelles musiques, de rencontrer de nouvelles personnes. Enfin, c'est ce qui est, faut réussir à garder le temps pour ça, quoi.
Le Balcon, votre orchestre, votre troupe, votre compagnie. Bah, pourquoi Le Balcon ? C'est bizarre comme nom.
Alors, ça vient de la pièce de théâtre de Jean Genet, qui a donné son nom à l'opéra de Peter Edvösch et donc aussi à notre groupe Le Balcon. L'histoire au départ, c'est que donc on a créé l'ensemble il y a 5 ans et on cherchait un nom pour ça, et on cherchait avec Alphonse Semain, donc le pianiste avec qui j'ai créé Le Balcon, un nom. Et je sais pas pourquoi je tenais à la référence littéraire. Voilà, c'était un peu intuitif comme ça. Et on avait trouvé ce livre sur mon étagère, et puis on s'est dit, bah en fait, Le Balcon, ça sonne bien, et puis on est très proche de Jean Genet, donc c'est parfait, allons-y.
Donc rien à voir avec l'opéra de cette année au théâtre de l'Athénée de Peter Edvösch.
Rien à voir.
L'œuf ou la poule.
Je savais même pas qu'il y avait un opéra de Peter Edvösch qui s'appelait Le Balcon quand on a décidé de nommer ça comme ça.
On va pas vous faire raconter l'histoire du balcon, Pascal. Nicolas Lafitte est allé promener son micro parmi des membres du balcon et voici ce qu'il nous raconte.
Un jour, c'est Maxime qui avait une idée, il voulait créer un orchestre, un ensemble, on ne sait pas trop. Tout ça s'est fait de manière un peu improvisée, très instinctif, et on s'est dit on va faire un orchestre sonorisé. Et il avait l'idée de départ de mettre un ingénieur du son en fait dans la boucle du projet. Et il se trouve qu'au Conservatoire de Paris, il y a une formation qui s'appelle la formation supérieure en métier du son, qui forme pas forcément des gens en lien très direct avec le spectacle vivant, mais voilà, enfin c'est des gens qui ont une approche, qui ont un parcours artistique assez intéressant. Donc du coup on s'est trouvé comme ça, avec également un pianiste, chef de chant et trois compositeurs. Voilà, comment tout est parti.
On était six à discuter un peu de ce qu'on aimerait faire, de ce qui manquait, de ce qui nous manquait un peu à Paris d'abord, mais après en général dans la vie musicale. Et comme Florent était là et l'idée de la sonorisation aussi, c'est venu à ce moment-là. Ça intéressait beaucoup les compositeurs qui étaient aussi avec nous dans ce groupe-là. Donc, c'est un peu de chacun qui s'est mélangé, qui a créé ça.
On est quand même six personnes qui avons des goûts, des envies de spectacles très très différentes. Et ce qui est sûr, c'est qu'on ne s'est pas retrouvés autour d'une esthétique. On s'est vraiment retrouvés autour d'un six étudiants qui sont en même temps au Conservatoire de Paris. Donc c'est vraiment un projet lié en fait, à une génération. Et c'est avant tout ça qui a réuni ces six personnes. Et surtout une certaine manière en fait, de concevoir le spectacle en lien... Bon, c'est un petit peu moins intéressant en fait, en lien à la manière dont la structure peut être pensée en amont, qui permet ensuite de produire nous-mêmes en fait, nos propres spectacles.
Plein de moments où on s'est dit qu'on allait droit dans le mur, surtout pour l'organisation, l'administration, tout ça. Et on s'est fait sauver la vie par des professionnels qui nous ont beaucoup aidés.
Alors j'imagine que vous les avez reconnus, Maxime, Pascal.
Oui, bah, on a entendu Florent de Rex, l'ingénieur du son avec qui on a créé Le Balcon, et Alphonse Semain, donc pianiste et chef de chant, qui co-dirige avec moi en fait tout le côté opéra, théâtre lyrique qu'on fait, puisqu'on a aussi plein de chanteurs dans notre troupe, donc voilà, il travaille sur ça avec moi.
C'est la vraie histoire, il ne romance pas, il n'y a pas d'intox.
Non, c'est très très bien, c'est très très bien résumé. Bah, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui a été dit par Florent, c'est c'est pas un projet d'amis au départ. C'est un projet de six personnes très très différentes, qui ont des visions très différentes du spectacle, de la création, de la musique, mais qui ont en commun d'avoir la foi en quelque chose de puissant, et voilà, qui se mettent ensemble et qui disent voilà, on va aller dans cette direction-là ensemble, même si on n'a pas les mêmes goûts. Et c'est pour ça qu'il y a du coup, on s'est pas retrouvé comme c'est ce qu'il disait, on s'est pas retrouvé autour d'une esthétique. Il y a pas de manifeste. C'est juste, voilà, on a envie de faire des choses, on est là, allez, on y va, on se met ensemble et puis feu quoi.
En parlant d'esthétique, Maxime, on va écouter une voix et pas n'importe laquelle, il s'agit de Rodrigo Ferreira avec qui vous travaillez souvent. On l'écoute dans Jardin Nocturne, extrait des Mirages de Gabriel Fauré, à la sauce balcon. Jardin Nocturne Gabriel Fauré avec des arrangements d'Arthur Lavandier. Et c'était la voix de Rodrigo Ferreira. Magnifique cette voix.
Oui, incroyable. C'est un chanteur magnifique. J'adore travailler avec lui. Et puis, ce n'est pas qu'une voix. C'est surtout, il y a aussi une présence scénique incroyable. C'est une
bête. On a pu le voir au théâtre de l'Athénée. Il était incroyable. C'est lui qui avait le premier rôle.
Ouais. En Madame Irma, dans le balcon de Peter Advoche. Oui, parce que donc, dans l'histoire, donc, ça se passe dans un bordel et c'est tenu par une tenancière qui s'appelle Madame Irma.
Tu fais très bien la tenancière.
Et voilà, et donc on a travesti Rodrigo pour cet événement-là et il était sublime.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous travaillez souvent avec les mêmes personnes parce que le balcon, c'est pas seulement un ensemble instrumental.
Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, on s'est construit sur un modèle un peu hérité de celui de, par exemple, l'ensemble intercontemporain, c'est-à-dire l'idée de l'ensemble à géométrie variable, c'est-à-dire avec un effectif qui change en fonction des pièces qu'on joue. Le truc, c'est que nous, très très vite, on a étendu ça, cette notion de géométrie variable, pas juste aux instruments, mais déjà aux chanteurs et à tout ce qui peut concerner un générique de création, c'est-à-dire metteur en scène, costumière. Par exemple, on a notre propre costumière, on travaille, on commence à fédérer une équipe de metteurs en scène, de vidéastes, et surtout pour toute la dimension dimension technique, c'est-à-dire on a des ingénieurs du son, des informaticiens, on a tout un parc microphonique et donc notre propre dispositif de diffusion qui s'organise différemment en fonction de ce qu'on veut jouer. Donc c'est vraiment cette notion de géométrie variable élargie, en plus en lien avec un amour fort pour la tradition symphonique qui vient de la manière dont moi j'aime interpréter les choses et concevoir un groupe instrumental, c'est-à-dire qu'on a on a dans notre structure instrumentale une structure de petit orchestre symphonique avec un violon solo, bois solo, comme dans, voilà, avec ce type de hiérarchie là. Et donc on joue aussi, c'est pour ça qu'on joue du répertoire aussi très ancien, alors qu'on joue aussi des pièces très très récentes avec des jeunes compositeurs. Et c'est pour ça qu'il y a plein de d'artistes différents dans notre groupe.
Vous parliez de tradition symphonique. Un exemple, justement, avec cet extrait de Scheherazade de Nikolaï Rimsky-Korsakov, revu, mais pas corrigé, par vous, Maxime Pascal.
Maxime Pascal, il y a quelqu'un qui vous a suivi dans votre aventure et qui vous aide beaucoup. Il s'agit du directeur du Théâtre de l'Athénée.
Je leur ai proposé de venir en résidence. Alors ils m'ont dit que ça veut dire quoi ? J'ai dit, je vous donne le théâtre pendant 2 semaines. Pendant 1 semaine, vous répétez. Et la deuxième semaine, vous jouez le concert. Je pensais à un concert à l'époque. Que vous aurez choisi, les œuvres que vous aurez choisi de jouer en concert. Ah, formidable et tout ça. Et ils reviennent me trouver quelques temps après pour me donner le programme. Et ils me disent, voilà, le concert, en fait, ce sera Ariane Anaxos. Je dis, Ariane Anaxos, de quoi parlez-vous ? Eh bien, on parle de l'opéra de Strauss. Alors, je dis, c'est pas un concert, c'est un opéra. Donc, c'est une version de concert d'un opéra, c'est ça que vous me proposez. Il me dit, non, c'est une version mise en scène, ce sera mise en scène. Je dis, mais vous rendez compte de la dimension de ce théâtre et de l'ambition de votre projet ? Mais oui, on sait bien, mais vous savez, ces petits orchestres, ils sont seulement 38. Bon, d'accord. Puis, il n'y a que 12 chanteurs. Je dis, mais ça fait quand même 50 personnes. Vous croyez que vous pouvez monter ça ? Oui, on va y arriver, on va y arriver. Et ils sont arrivés magnifiquement bien. Et c'était effectivement une mise en scène d'Ariane Anaxos. C'était probablement la plus intéressante que j'ai jamais vue. J'en ai vu une dizaine. Et l'œuvre était là, offerte comme elle ne l'a jamais été. Et mon public, on n'a fait que 2 représentations, si mon souvenir est exact, le public était absolument stupéfait par cette proposition, qui était une proposition répétée très peu de temps. Je crois qu'ils ont répété 2 semaines en réalité, on a joué 2 fois ensuite. Et du coup, quand ils sont revenus pour la 2e année de leur résidence, c'est-à-dire cette saison-ci, toutes les places sont déjà vendues pour les 4 représentations d'une œuvre qui n'est pas aussi facile d'accès que Ariane Anaxos de Strauss, Peter Rotwoesch, fait le plein avec les abonnés de l'Athénée notamment, et avec le public de l'Athénée.
Et oui, c'est génial, non ?
Ouais, c'est super, on a une chance incroyable de pouvoir travailler là-bas. Le théâtre est sublime, l'équipe du théâtre est formidable. Enfin,
ils vous aiment, hein ?
On les aime beaucoup et on fait un travail génial parce qu'on a en plus on crée vraiment là-bas, on crée nos spectacles là-bas. Ça nous permet en plus à la fois de mêler notre équipe avec l'équipe du théâtre pour créer les spectacles qu'on imagine de faire. Et enfin, c'est vraiment c'est formidable.
Et je crois que vous avez des projets un peu fous. Au théâtre de l'Athénée.
Ah l'année prochaine, on va faire pas mal de choses. On va faire un concert. Déjà, on va faire un concert avec Julie Fuchs, qui va chanter les 4 chants pour franchir le seuil de Gérard Griset. Et ensuite, on fait une. Alors, on a une semaine en mai. On a une semaine un peu festivalière, un peu avec 2 opéras courts qu'on joue l'un à la suite de l'autre en alternance. Donc, un opéra d'un jeune compositeur argentin qui s'appelle Fernando Fisbein. L'opéra s'appelle Avenida de los Incas. Donc, c'est un opéra qui se passe dans un immeuble en Argentine avec un cours vidéo un peu fou, voilà, avec une histoire un peu bizarre. Enfin voilà, ça va être très bien. On joue ça aussi avec l'opéra Lohengrin de Chiarino, alors là dans un autre genre, un peu plus schizophrène, un peu plus bizarre. Et ensuite on est là-bas pendant longtemps, parce qu'on est là-bas pendant 2 mois quasiment. En juin, on va donner l'opéra de Michael Levinas, La Métamorphose, d'après Kafka, et là, mise en scène par Nieto, qui est un créateur vidéo avec lequel on travaille depuis longtemps et avec qui on avait fait le Pierrot Lunaire de Schoenberg déjà au Théâtre de l'Athénée. Donc voilà, ça va être très festif là, cette année à l'Athénée, et surtout avec cette semaine un peu festival, où d'ailleurs les 2 opéras courts sont mis en scène par Jacques Ozinski, ça va être sympa, on va bien rigoler.
Maxime, on a une petite surprise pour vous.
Ah, ça, c'est du hard, self-fiction, une composition d'un des membres du balcon.
C'est ça.
Juan Pablo Careno.
Qui est colombien. Et en fait, c'est une pièce qui fait partie d'un cinéma-concert qui s'appelle Garras de Oro, qui est conçu sur un film muet colombien qui date des années 30 et en plus qui a été interdit pendant très longtemps parce qu'il raconte des événements qui se passent pendant l'annexion du canal de Panama. Et donc, c'est un film très très violent. La musique de Juan Pablo est assez violente. Du lourd, quoi.
Si j'ai bien compris, met en rapport l'utilisation de l'électronique amplifiée et des sons instruments acoustiques. Qu'est-ce qui est acoustique, qu'est-ce qui est amplifié, Maxime Pascal ?
Dans cette pièce-là, c'est pour orgue, clarinette, guitare électrique et orchestre. Tout est sonorisé, mais ce que lui, il aime faire, c'est vraiment faire se confronter et faire s'affronter les sources, qu'elles soient donc électroniques, qu'elles soient acoustiques, c'est-à-dire les instruments pas amplifiés, et les instruments amplifiés. C'est-à-dire que ça joue sur ça, et les sources se confrontent. Parfois, les instruments sont en train de jouer fortissimo dans une espèce de brouillard électronique. On les entend à peine, on les discerne au loin comme ça, et donc ils sont obligés de se battre pour essayer de survivre dans une espèce d'orage magnétique comme ça, incroyable. Et parfois, juste comme on a entendu là, il y a juste des sons espèce de techno-industriel dans laquelle, pareil, doivent survivre un peu les musiciens. Et c'est toujours un peu comme ça, cette musique-là. On a toujours, quand on l'interprète, déjà, on ne peut pas la répéter longtemps parce qu'on a tout le temps la tête un peu hors de l'eau. C'est très, très physique. C'est un peu comme ça qu'il organise sa musique, Juan Pablo.
Retour à l'enfance, petit Maxime. Est-ce que vous avez baigné dans un monde de musique dès le plus jeune âge pour arriver à ce punk rebelle patron du balcon? Est-ce que vous étiez un élève modèle ou un petit ténu rebelle?
Alors bon, déjà, je baignais dans la musique puisque mes parents sont musiciens. Mon père est tromboniste, hein. Lui il fait du jazz et ma mère elle est professeure de piano. Donc voilà, j'ai entendu de la musique depuis tout petit. Et c'est marrant parce que j'ai été très tôt en contact avec le spectacle live sonorisé puisque j'allais écouter mon père, même quand j'étais bébé en fait, j'accompagnais... Donc mon père qui jouait dans des groupes de jazz ou de reggae parfois les concerts étaient vraiment très très forts et enfin j'ai ce souvenir là déjà en étant enfant. J'ai toujours beaucoup beaucoup aimé l'étude de la musique, l'étude des partitions, l'étude en général, la connaissance, approfondir la connaissance, c'est quelque chose qui me passionne. En revanche, j'ai jamais trop aimé l'enseignement en fait. Déjà les idées de classe, la question de l'enseignement aussi, l'enseignement de professeur à élève, c'est pas mon truc. Hein.
Et l'envie d'être chef, c'était un rêve de gamin, vous y pensiez avant de pouvoir vous raser?
c'est très particulier parce que c'est, en fait on se réveille pas un jour en se disant « Ah tiens, si je faisais de la direction, ça a l'air sympa ». C'est un jour, au contraire, on se rend compte que ça a toujours été là. Il y a une forme de nécessité et d'évidence. Et moi, c'est, à un moment donné, je ne sais pas, c'était évident qu'il fallait que je fasse ça. Parce que c'est quelque chose qu'on peut faire qu'assez tard. Les carrières se démarrent très tard. Moi, j'ai commencé quand j'avais 22 ans, je crois. On commence rarement avant. Donc, ce n'est pas une vocation. Mais c'est un peu comme, je pense, pour la composition. Ça demande de la maturité. Et en même temps, le jour où ça naît, en fait, ça a toujours été là. C'est juste qu'un jour, on se rend compte que c'était évident.
Il y a eu donc les cours de direction d'orchestre avec notamment François-Xavier Roth. Souvenir, souvenir.
C'était quelqu'un à l'époque qui était assez timide. Ça tranche pas mal de ce qu'on connaît de lui maintenant et qui s'intéressait énormément à la direction dans ce que ça pouvait avoir de fascinant et d'un peu mystérieux. Vous savez, dans les classes de direction, quelquefois, on trouve des prototypes de musiciens un peu particuliers, des gens qui ont des égos très, très développés, alors qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience de direction. Et lui, c'était vraiment le contraire. Il prenait la chose avec beaucoup de modestie et de simplicité. Mais je crois qu'il était très intéressé. Il était comme une éponge, quoi. Il a pris ce qui lui a servi plus tard. Et c'était pas quelqu'un qui était extrêmement extraverti, ni dans sa direction, ni dans sa manière d'être. C'était quelqu'un de plutôt assez réservé, mais on pouvait sentir qu'il y avait déjà une personnalité très riche.
Alors comme ça, vous étiez timide et maintenant vous êtes le chef. Ça s'apprend la direction, mais ça ne s'enseigne pas. Je vous ai lu dire ça. Ça veut dire quoi?
C'est que en fait, je pense que c'est d'ailleurs ce que j'ai appris avec François-Xavier Roth. C'est-à-dire que la direction... On l'apprend soi-même, on apprend soi-même à diriger au contact de l'orchestre, au contact des musiciens, au contact du texte qu'est la partition. On apprend, il parlait d'éponge, c'est ça quoi, quand on se met en situation de recevoir, on apprend. En revanche, ça ne s'enseigne pas dans le sens où il n'y a pas de clés qui peuvent venir d'une personne pour un élève et qui ouvre des portes comme ça ne marche pas, il n'y a pas de transmission. La seule manière dont un professeur de direction peut travailler, je pense, vraiment bien avec ses élèves. C'était le cas avec François-Xavier, c'est-à-dire il créait les conditions pour que nous... Enfin, moi, pour mon cas, c'est ce qui s'est passé, quoi. Il créait les conditions pour que moi, j'arrive et je me nourrisse et je grandisse. C'est pour ça que d'ailleurs, il disait qu'il avait l'impression que, enfin, il disait que j'étais timide ou réservé. C'est juste que vraiment, à cette période-là, c'était la première fois que je dirigeais. Il mettait en place les conditions. Moi, j'arrivais devant l'orchestre et j'écoutais, quoi. Mais ça avançait et j'ai laissé le truc grandir parce que j'ai passé juste un an dans cette classe-là. J'ai juste laissé grandir le truc comme ça en écoutant ce qui se passait et voilà.
On va écouter justement Maxime Grandi. On va vous écouter maintenant dans un enregistrement tout récent que France Musique a réalisé à Deauville. Il s'agit de la danse des morts d'Olivier Grève. Thank you. Pierre Fouchonneret, Adrien Boisseau, Jérôme Pernaud, Jérôme Ducrot, l'atelier de musique moderne sous votre direction, Maxime Pascal, pour cette danse des morts d'Olivier Greff. Voilà une musique de 98, je crois, tout à fait accessible et qui nous transporte.
Oui, qui nous transporte de manière très étrange. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'en fait, je connaissais pas, enfin, j'avais jamais dirigé la musique d'Olivier Greff avant ce concert-là. Et je la connaissais de, parce que j'avais beaucoup écouté ça en concert. Et je dois avouer que c'est une musique qui me quand même laissait un sentiment assez, assez curieux. Je trouvais ça vraiment très, très bizarre. Donc du coup, en fait, quand Yves Petit-Devoise m'a appelé pour faire ça à Deauville, m'a dit, bah, tiens, il faut que tu fasses la danse des morts d'Olivier Greff. Je me suis laissé emmener par aussi le lien affectif très fort qu'il y a entre Olivier Greff, Yves Petit-Devoise, les musiciens qui ont joué ça. Il y a une histoire vraiment très forte autour de ce compositeur, de ces personnes-là, de ce festival, de Deauville. Donc, en fait, c'est ça, je trouve, qui a le plus permis que ce concert-là transporte, parce que les gens étaient vraiment, vraiment à fond. Quoi. Après, c'était un événement vraiment important.
Maxime Pascal, vous qui êtes jeune, talentueux et plein de projets, à votre avis, quelle serait la méthode pour amener la musique classique partout et attirer les jeunes ?
Déjà, vouloir amener les jeunes à la musique classique, déjà, si on prend la chose comme ça, je pense qu'on ne va pas aller très loin. Parce que les jeunes, je ne sais pas trop ce que c'est. La musique classique, je ne sais pas trop ce que c'est. Enfin, je veux dire... je fais un rappel très, 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 très court, mais pour que les gens sachent une fois pour toutes, on a nommé musique classique la musique écrite au moment de la période classique, c'est-à-dire Mozart, Haydn, Beethoven, parce que c'est la période où les compositeurs se sont rendus compte que en écrivant la musique, ils allaient pouvoir la transmettre et qu'elle pourrait être jouée une fois qu'ils seraient morts. Ce n'était pas le cas avant. Et donc, on vit comme ça depuis très longtemps sur cette idée-là. Et c'est pour ça qu'on a donné le nom de musique classique, parce que c'est né cette notion-là à cette époque-là. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut jouer les choses parce qu'on a envie de les jouer. C'est aussi simple que ça. Vu qu'aujourd'hui, on évolue dans un monde institutionnel extrêmement standardisé, bah le désir, l'envie sont parfois vraiment très, 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 très éloignés des réalités. Quoi. Donc, à partir du moment où on joue les trucs qu'on a envie de jouer, parce qu'on aime ça et parce qu'on a envie que les gens aiment ça, la question générationnelle, elle se pose pas du tout, du tout, quoi. Mais vraiment pas.
Et la sonorisation dans tout ça, les enceintes que vous mettez partout, les micros.
Oui, ça vient d'une idée assez utopique que j'avais et que les autres personnes avec qui j'ai monté le balcon avaient aussi. D'une manière différente, c'est l'idée d'avoir un spectacle vraiment, vraiment... vraiment puissant, d'avoir une diffusion du répertoire qu'on est en train de jouer, que ce soit un répertoire ancien ou un répertoire plus récent, d'avoir un geste d'interprétation vraiment massif, vraiment impactant, spectaculaire, parce que voilà, moi j'aime raconter les histoires, enfin quand je raconte une histoire aux gens, quand je dirige, j'ai envie juste que soit de leur coller des claques, soit de les prendre à la gorge, soit de les faire pleurer, j'ai pas envie que juste ils voient un truc qui soit à 30 mètres d'un musicien et qu'ils voient un truc de loin comme ça, haha, c'est pas ça, c'est pas comme ça que je vois le truc quoi, j'ai envie que ça soit... J'ai envie que ça soit fort, quoi. Donc c'est pour ça que cette idée du spectacle, elle est née chez nous, parce qu'on voulait que les gens soient complètement immergés dans une musique, soit face à une diffusion vraiment, qui reçoive quelque chose de très frontal, de très puissant, et quoi qu'on joue, que ce soit vraiment comme ça, quoi.
Thank you.
Un extrait de Upon Science de George Benjamin avec Émilie Renard et l'ensemble Sidfast sous votre direction, Maxime Pascal.
Alors, vous avez 27 ans, un orchestre, vous dirigez le mois prochain au Festival de Salzbourg. Maxime, qu'est-ce qu'on peut, sinon vous souhaitez, quels sont vos rêves ou vos projets ?
Des projets, j'en ai plein. Là,
vous en avez évoqué certains.
Là, il y a plein de choses avec le balcon et puis moi, je vais diriger beaucoup aussi. Non, en revanche, pour le futur, ce qu'il faut savoir, parce que là, on a entendu beaucoup de choses très gentilles et très flatteuses sur mon sujet, mais faut aussi savoir que c'est quand même le tout début du chemin aussi. J'ai vraiment beaucoup de travail encore et ce qu'il faut me souhaiter, c'est de pouvoir continuer à vraiment avancer le plus possible, parce que j'ai beaucoup de choses à faire évoluer et à faire grandir encore, et il faut que ça continue et que ça c'est très important, ouais.
Vous vous imaginez pas, vous vous rêvez pas en directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, par exemple?
C'est pas votre truc, ça. Non, parce qu'en fait, depuis que j'ai commencé la musique, je parle de manière professionnelle, je me suis jamais projeté personnellement, en fait. En revanche, je peux me projeter très en avance par rapport à ma structure, par rapport à mon ensemble, par rapport à la musique, par rapport au projet, à plein de choses. Mais moi, personnellement, non.
En attendant, voici venir un observateur avisé de la vie musicale française. Cet observateur, c'est Christian Merlin, le monsieur musique classique du Figaro, même si la musique classique, ça ne veut rien dire. Voici les prédictions de Christian Merlin. Et d'abord, quel est son premier souvenir de vous, Maxime Pascal? Il était au micro de Nicolas Lafitte.
Le premier souvenir, clairement, c'est le marteau 100 mètres de Pierre Boulez. Et c'est un souvenir assez bluffant parce que c'est une œuvre qu'on croit connaître et qui est un peu fondamentale dans l'histoire de la musique. Mais du coup, qu'on a tendance à sacraliser. Mais là, d'un seul coup, on a l'impression d'avoir une musique qui vit, qui est presque lyrique, n'ayons pas peur des mots. Ça, c'est une expérience fondatrice, parce qu'on se dit qu'il n'y a pas de fatalité à ce qu'une musique soit plus abstraite qu'une autre. J'ai toujours cru qu'il y avait une sensualité dans la musique de Pierre Boulez, et d'un seul coup, ça éclatait.
Est-ce que vous avez su d'ailleurs ce qu'en a pensé Pierre Boulez?
Je crois qu'il a apprécié cette interprétation tout en donnant des conseils à Maxime Pascal. Et ça, c'est ça qui est si généreux de la part de Pierre Boulez, qui est toujours extrêmement ouvert et qui, justement, a essayé de recadrer les choses, sentant ce potentiel absolu de liberté qu'il y avait chez Maxime Pascal, mais en l'invitant aussi à resserrer les boulons et à être ferme dans sa direction. Et je pense que depuis, je l'ai vu plusieurs fois, et c'est une des choses qui m'impressionne, c'est cette capacité qu'a Maxime Pascal à être souple dans un cadre rigoureux.
Quelle est la caractéristique de Maxime Pascal en tant que chef ?
Moi, je le trouve atypique. Ce qui m'intéresse chez lui, c'est qu'il est un mélange de quelque chose qui semble complètement empirique, par exemple dans sa gestuelle et dans sa manière de travailler, et en même temps, quelqu'un qui est issu de l'académie et issu de la formation d'excellence et qui a fait ses classes. Quand je le vois diriger et que je regarde même sa gestuelle, j'ai l'impression qu'il ne dirige pas des mesures ou des carrures, mais qu'il raconte une histoire, même quand c'est de la musique purement instrumentale.
Quel est le regard que vous portez sur sa carrière et sur ce qu'il pourrait devenir ?
Ce qu'il pourrait devenir est un grand point d'interrogation pour moi, et c'est pour ça que j'ai été plutôt surpris de sa victoire au concours de Salzbourg, par exemple, qui est un concours de direction d'orchestre, peut-être pas tout à fait académique, mais néanmoins un concours où se présentent des chefs qui font du symphonique, qui font du grand orchestre, qui font de l'opéra, et lui, je le connaissais plutôt par son parcours du balcon, et je me demandais si les deux étaient compatibles, et je constate que les deux le sont tout à fait, et je pense que de toute façon, quand on a un bras pour diriger 12 copains, on l'a pour diriger 120 musiciens, mais justement, je trouve passionnante cette cohésion qu'il y a entre les deux aspects chez lui, l'aspect artisanal, le balcon, et en même temps, la capacité à diriger un grand orchestre. Et je pense que le balcon, au fond, est à comprendre comme un mini orchestre symphonique, un orchestre symphonique à taille réduite, mais qui a finalement les mêmes impératifs, les mêmes soucis esthétiques et de fonctionnement collectif. Et il y a ce rapport chez lui entre le collectif et l'individu. Individuel qui me paraît franchement intéressant. Néanmoins, il reste le chef. C'est le patron, c'est le maestro. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, d'une certaine manière, il le revendique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend beaucoup un discours de la part des chefs d'orchestre qui consiste à dire, vous savez, il ne faut jamais oublier que ce sont les musiciens qui jouent. Nous, on ne fait rien, le chef d'orchestre. On agite les bras, mais c'est l'orchestre qui joue. Jamais, Maxime Pascal ne dira ça. On sent très bien, quand il est là, que c'est lui qui diffuse quelque chose en direction de l'orchestre et en direction du public.
Alors Maxime, c'est vous le boss ?
Oui, c'est en fait le... Non, enfin oui. N'importe quoi. Non, en fait, je comprends ce qu'il veut dire. En fait, ce qui est vrai, c'est que effectivement, ce sont les musiciens qui jouent et le chef, en fait, ne sert pas à grand-chose. En revanche, c'est vrai que moi, quand je suis là, si je me présente devant le public... C'est pour raconter une histoire au public. Donc, je ne vais pas me décharger de ça. Je vais vraiment prendre mon rôle et le tenir jusqu'au bout. Et si je dois diriger un opéra, eh ben, du début à la fin, je vais raconter l'histoire vraiment pour les gens et de manière la plus directe possible, en fait, de moi à eux. C'est-à-dire, moi, je crée cette connexion-là et je raconte directement les choses aux gens. C'est vraiment comme ça que je vois les choses, quoi.
Maxime Pascal, on ne pouvait pas se quitter sans passer un petit morceau qu'on a beaucoup aimé, qui vous plaît, visiblement, que vous écoutez souvent, qui s'appelle Mélodie Circus. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Bon, c'est juste la musique que j'écoute quand je suis chez moi. Donc là, c'est un DJ qui s'appelle Savant... qui est norvégien et qui fait une espèce de drum and bass 8-bit un peu reggae bizarre, mais bon, c'est vraiment très drôle et je trouve ça vraiment très beau.
On se croit un peu dans un jeu vidéo au début.
Et ouais, exactement, c'est un peu ça.
Maxime Pascal, vous nous rappelez ce que c'est si nos auditeurs piaffent pour télécharger légalement ou pour acheter cette musique ?
Alors, c'est un DJ qui s'appelle Alexander Winter et son nom de scène, c'est Savant.
Merci beaucoup Maxime Pascal. Merci. Et merci à Géraldine Prutner qui a réalisé cette émission, à Marie Le Peintre, à la technique, à Pauline Boisaubert, attachée de production. Bah Jean-Baptiste, on se dit à la semaine prochaine.
À dimanche prochain.
Même heure, même chaîne.